La bienveillance aurait des pouvoirs insoupçonnés et Monique nous en dit plus là-dessus.
Oui, alors c'est un article rédigé par Raphaël de Rome, donc dans l'édition la plus récente de Québec Science, soit celle de janvier-février 2027. Alors, comment allez-vous en cette nouvelle année? Avez-vous toujours foi en l'espèce humaine? Avec les guerres qui font rage, on a parfois de la difficulté à voir du positif. Et pourtant, l'une des caractéristiques distinctives des êtres humains, c'est bien leur bienveillance envers les autres. Par exemple, qu'il s'agisse de saluer la caissière à l'épicerie, de tenir la porte ouverte à quelqu'un, d'aider un ami à déménager ou à déneiger, de consulter une collègue, de consoler une collègue, de donner du sang, de faire un don à un organisme de charité. La plupart d'entre nous agissent régulièrement au bénéfice d'autrui, que cela leur profite ou non. Et même si plusieurs formes d'entraide existent chez les animaux, l'être humain aide ses semblables plus souvent, dans plus de situations, avec plus d'individus différents et de manière plus flexible que les autres espèces, nous indique Kristen Dornfield, qui est professeure de psychologie à l'Université Concordia. Les psychologues, bien sûr, se sont emparés de la question, notamment avec la naissance de la psychologie positive il y a une vingtaine d'années, alors que la psychologie classique est d'abord axée sur la détresse psychologique ou les troubles mentaux. La psychologie positive, elle, considère que la santé mentale ne se résume pas à l'absence de maladies ou de troubles. Ce courant, donc, de la psychologie positive cherche plutôt à découvrir les forces des individus, ce qui leur permet d'être heureux et de s'épanouir pleinement. Or, il semble justement que faire preuve de bienveillance, de générosité, aider ou réconforter les autres, tout ça contribue à notre bien-être, à la qualité de nos relations et à notre santé psychologique. Parfois, même plus qu'on pourrait l'imaginer. Cette évolution qui aurait fait de nous des animaux aussi doués pour la bienveillance, c'est l'évolution en fait qui aurait fait de nous des animaux aussi doués pour la bienveillance. Notre espèce a évolué pour trouver les actes de générosité gratifiants à court terme parce qu'ils facilitent les liens sociaux à long terme. Un des principaux moyens pour créer et faciliter les liens sociaux, c'est ce que les psychologues appellent les comportements pro-sociaux, les gestes qu'on fait pour le bien d'autrui. Depuis 10 ans, plusieurs études arrivent au même constat. Ceux et celles qui dépensent leur argent pour les autres, en offrant des cadeaux à leurs proches ou en faisant des dons de charité, par exemple, rapportent des niveaux plus élevés de bien-être. Mais si la corrélation entre générosité et bien-être est claire, il est plus difficile de confirmer s'il y a une relation de cause à effet. Est-ce que donner rend les gens heureux ou est-ce plutôt que les personnes heureuses sont plus enclines à donner? Il y a même une troisième possibilité, peut-être que les gens qui donnent sont plus riches et que c'est leur richesse et non le don qui les rend heureux. Pour démêler tout ça, il faut bien sûr effectuer des expériences, nous explique Lara Aknin, qui est professeure de psychologie sociale à l'Université Simon Fraser. Avec son équipe du Helping and Happiness Lab, elle a mené plusieurs études dans lesquelles des volontaires reçoivent quelques dollars. Dans le premier groupe, ils doivent dépenser l'argent pour se gâter eux-mêmes et dans le deuxième groupe, pour gâter quelqu'un d'autre. Mais chaque fois, ce sont les membres du groupe généreux qui se sentent plus heureux après l'expérience. Et une somme relativement modeste suffit à générer des émotions positives. Pour témoigner de l'attention et de l'intérêt que l'on porte à quelqu'un, pas besoin de lui offrir une voiture sport, un simple café suffit, nous dit Lara Aknin. Le phénomène semble généralisé. On a mené l'expérience dans des pays relativement riches et d'autres moins riches. On a étudié des enfants de moins de 2 ans avec des collations plutôt que de l'argent et même d'anciens délinquants. Et chaque fois, on a obtenu des résultats similaires. on peut dire qu'il s'agit d'une conclusion assez solide et généralisable. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles généreuses alors que d'autres sont hostiles, avares ou manipulatrices? Ben, la réponse est que c'est en partie une question de personnalité. Il y a différentes façons de mesurer la personnalité. L'un des modèles les plus connus est le Big Five, qui regroupe 5 grandes composantes. 1. L'ouverture d'esprit. 2. La conscienciosité, c'est le fait d'être consciencieux. 3. L'extraversion. 4. Agréabilité. Et 5. Finalement, la stabilité émotionnelle. Certaines de ces dimensions permettent en quelque sorte d'évaluer la bienveillance des gens. Mais il existe un autre modèle, c'est le test HEXACO, H-E-X-A-C-O. C'est un test de personnalité. Si vous allez sur le site d'HEXACO, vous pouvez faire gratuitement ce test-là. Et il reprend les 5 catégories et en ajoute une 6e, l'humilité. Alors, les gens qui obtiennent des scores élevés sur l'échelle d'humilité sont intègres et justes. Ils ne veulent pas être manipulateurs ou malhonnêtes avec autrui et sont peu soucieux d'obtenir richesse et statut social. Autrement dit, ils ne pensent pas mériter le traitement particulier par rapport aux autres. L'humilité est un indicateur très fiable du comportement pro-social. Il semblerait que la plupart des gens sont très généreux envers leurs proches, explique Lara Aknin. Mais à mesure qu'on s'éloigne de ce cercle, la générosité chute de manière brutale. Par ailleurs, ce n'est pas le cas des altruistes extrêmes. Eux, ils affichent un niveau de générosité presque constant, comme s'ils disaient « tout le monde mérite la même bienveillance, pas seulement les gens que je connais et que j'aime ». Pourrait-on amener des gens ordinaires à élargir leur réseau de bienveillance auprès d'autres personnes que leurs proches? On l'ignore encore. Et au travail? Ben, il semblerait que les milieux de travail gagneraient à prendre la bienveillance au sérieux. Est-ce que la bienveillance pourrait être un levier de performance? Dans les environnements où la bienveillance est la norme, on observe des niveaux élevés de sécurité psychologique. Les gens collaborent naturellement, partagent les informations au bon moment et les projets se réalisent de manière plus efficace. Les employés sont moins épuisés, tombent moins souvent en arrêt de travail et choisissent de rester en poste. La bienveillance n'est donc pas un luxe ou un sacrifice, mais un investissement. Au Québec, la bienveillance gagne des adeptes. Depuis 2021, la loi oblige les employeurs à se doter d'un plan de prévention qui tient compte des facteurs de risque psychosociaux afin de protéger la santé psychologique du personnel. Et leur responsabilité en la matière ne se limite pas à punir la violence ou le harcèlement. Il est question de favoriser la reconnaissance du personnel, la justice dans l'organisation, de traiter le personnel avec respect, dignité et politesse, de lui fournir le temps, les outils et les ressources nécessaires au travail. La bienveillance permet de créer du lien et de reconstruire la cohésion sociale dans nos communautés. La bonne nouvelle, Hélène, c'est que tout le monde peut développer sa bienveillance. Semble-t-il que c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne, plus on devient doué. Alors, à l'entraînement, à la bienveillance.